sur Radio Colomiers. Au gré des vagues.
Bonjour, je m'appelle Alaïs.
Je m'appelle Amine.
Bonjour, je m'appelle Zoé.
Du collège Victor Hugo.
J'aime bien aller à la mer.
J'aime manger des glaces et tout ça.
Thomas. Jasmine.
On ne retrouve pas les mêmes poissons dans la mer Méditerranée, l'océan Indien. Sur la plage, on peut trouver des sacs plastiques, des canettes, des bouteilles de bière.
Sur Radio Colomiers,
5ème une,
au gré des vagues.
Nous allons à présent nous plonger dans les enjeux spécifiques de l'exploration et découvrir des lettres des navigateurs pour leur famille.
Nous vous présenterons également un portrait d'Éric Taberly.
Nous poursuivons l'écoute des avis sur le thème de l'eau et de la planète.
Enfin, nous vous présenterons la seconde partie de l'interview de Catherine Jandel du CNRS.
On est le 2 juillet 1862 et on vient de découvrir un île pas loin de l'Afrique. Sur cette île, il y a plein d'animaux sauvages, de grandes montagnes, mais surtout une espèce de substance nouveau. Il est liquide, mais quand on a pris une petite partie de cette substance et on a regardé à l'intérieur, on voyait qu'il y avait aussi de nouveaux microbes et des êtres vivants dedans. On a décidé d'explorer encore plus l'île et un jour qu'on n'avait pas beaucoup trouvé, le soir on avait rentré et les scientifiques qui regardaient la substance étaient tombés malades avec un nouveau, avec une maladie qui temporairement donnait des pouvoirs mais aussi rendait très faible la personne en soi. Le lendemain, on essayait de trouver quelque chose sur l'île qui pourrait nous aider, mais on n'a rien pu trouver pour l'instant. On essaye de rester proches ensemble pour pouvoir se protéger contre les bêtes de la nuit. Et après quelques semaines, on a pu être en contact avec de l'aide et on nous a sauvés de cette horrible île. Cordialement, Jean-Luc le deuxième.
Avez-vous eu la chance de découvrir plusieurs océans ? Si oui, lesquels ?
Alors, j'en ai découvert plusieurs, oui, parce que je suis née au bord de l'océan Atlantique. Après, j'ai déjà découvert l'océan Pacifique. Là, j'ai pas fait énormément de voyages. J'ai fait des voyages autour des mers plutôt, pas autour des océans.
Alors oui, j'ai voyagé un petit peu. Pas assez à mon goût, j'espère qu'on va pouvoir revoyager d'ici peu. L'océan Atlantique, évidemment, puisque c'est un des océans qui baigne nos côtes françaises. Un petit peu le Pacifique, et voilà.
Que pensez-vous de l'avenir des océans dans une centaine d'années ?
Si on ne fait rien pour stopper le réchauffement climatique, c'est sûr que les océans deviendront beaucoup plus acides à cause des rejets de dioxyde de carbone. Donc du coup, il y aura sans doute un affaiblissement de la fosse marine et de la diversité de la faune et de la flore dans les océans. Aussi, les océans monteront à cause de la fonte des glaciers dans les pôles. Et on court à notre perte si jamais on ne fait rien. Et les océans sont un enjeu majeur dans cette crise du réchauffement climatique.
Alors, dans une centaine d'années, j'espère qu'on aura réagi aujourd'hui pour faire en sorte que les océans ne périclitent pas et ne soient pas en danger. Parce que si les océans sont en danger, dans une centaine d'années, on perdra en qualité de vie, en qualité de l'air. Sans doute aussi des espèces pourraient disparaître. Et à terme, c'est l'espèce humaine qui serait en danger. Donc j'espère que pour les générations futures, des mesures seront prises à la fois sur l'écologie, mais aussi sur la pêche et sur toute l'économie qui est liée aux océans.
Pensez-vous que nous puissions sauver les océans ?
Bien sûr. D'abord, de ne pas jeter du plastique, de ne pas jeter des déchets, à faire moins de transport maritime, le transport des cargos et tout ça, et pêcher moins de poissons et manger beaucoup différemment, pêcher moins et manger moins de poissons, et changer notre alimentation.
Si chacun y met du sien, je pense que c'est possible. Après, ça va prendre forcément du temps, mais ça fait déjà 40 années que c'est mis en place. Après, il faut réfléchir, il faut voir les différentes formes, mais je pense que c'est possible.
Quelle importance a l'eau dans notre vie ?
L'eau dans notre vie, c'est très important, puisque nous sommes constitués d'eau, notre corps est constitué d'eau, donc il permet de faire plein de choses. Et puis l'eau, de manière générale, sur la planète, qui regorge de plein de biodiversité, d'êtres vivants. Donc dans les océans et les mers, on retrouve beaucoup d'êtres vivants. Donc c'est essentiel, indispensable pour la vie des êtres humains, de tous les autres animaux et végétaux sur Terre.
Pensez-vous qu'il y ait un lien entre le réchauffement climatique et les océans ?
Oui, c'est évident qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique et les océans. Il y a plein d'experts qui montrent que, là, un exemple dans des îles où il y a une grande montée des eaux, il y a un lien direct avec la fonte du permafrost et du rejet du dioxyde de carbone dans les océans. Ça a été prouvé par plusieurs scientifiques et d'ores et déjà on observe des conséquences permanentes sur les océans. Donc c'est évident qu'il y a un lien entre les deux.
Oui, non, c'est difficile à contrer parce que ça implique beaucoup de choses qu'il faudrait changer. Le problème, c'est que le système économique dans lequel nous sommes est difficile à réformer et du coup, c'est difficile de combattre le réchauffement climatique.
C'est un problème très intéressant et qui préoccupe actuellement la société. Je crois qu'il faudra s'intéresser à ce problème parce que un jour ou un autre, nous sommes amenés à prendre soin de notre planète. Sinon, on va perdre beaucoup de ressources.
Que connaissez-vous du Vendée Globe ?
Alors, je sais que c'est une course qui part de la Vendée. Et donc, ça fait le tour du globe, en fait, tout simplement. C'est une course de bateaux. Et donc voilà, et je trouve que c'est une compétition assez intéressante parce que d'un côté, ça permet de mettre, comment dire, la nature en avant, notamment le milieu de l'océan. Et donc, ça permet également de mettre, de récompenser des gens qui sont en phase totale avec le milieu nautique.
Ouais, est-ce que vous êtes chaud pour prendre la mer aujourd'hui en vie scolaire ?
Ouais !
Faites-moi un petit bruit de mouette. Voilà. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je m'en souviens mardi. J'étais en vie scolaire et on a pris une rabâche. On a pris une bouée et ça fait un son de cravache. On a pris une mouette, c'était chouette, préfère la couette. Mais ça, c'est ça la vie scolaire, c'est l'aventure.
Éric Tavarly est né le 24 juillet 1931 à Nantes et il est mort le 13 juin 1998 en mer d'Irlande à la suite d'une chute. Il est navigateur, officier marinier pilote de l'aéronautique navale, puis officier de marine jusqu'au grade de capitaine de vaisseau 3. Il contribue par ses victoires au développement des activités nautiques en Bretagne et en France. Il a mis fin à la domination anglaise dans la course au large. Il a aussi formé toute une génération de coureurs océaniques.
Et le Vendée Globe, c'est une course en voilier monocoque autour du monde.
C'est considéré comme la course la plus prestigieuse en voilier parce que les concurrents s'affrontent durant 3 mois et ils doivent traverser les terres les plus dangereuses du monde. La course a aussi fait des victimes pendant plusieurs tragédies et certains marins ont dû abandonner pendant le voyage.
Nous remercions Florian et son équipe.
ils ont réalisé le micro-trottoir sur la partie de la cité scolaire.
Écoutons à présent le dernier micro-trottoir, les lettres de John Mac Dalton.
Et Suleiman, ainsi qu'une réflexion sur les enjeux de l'exploration.
Chers collègues, aujourd'hui, le 23 novembre 1971, nous sommes arrivés sur une île au sud de l'Inde. Sur cette île se trouve une plante étrange. Elle ressemble un peu à une rose, mais plus violette. Elle est plus abondante que sa congénère, la rose. Dans l'eau nage un requin. Il est étrange. Il a une bouche plutôt en spirale. Nous devrons l'identifier plus précisément demain. Ceci était un voyage très réussi. Cordialement, Jean Mac Dalton.
D'après vous, à quoi servent les explorateurs et les explorations du monde et du globe ?
Ben, du coup, au final, ça sert à faire avancer la recherche scientifique quand on découvre des nouvelles choses.
Pour découvrir la planète, de quoi elle est faite ? Des fleurs inconnues, des animaux inconnus, ou etc.
Ça sert aussi à augmenter la richesse d'un pays, parce que si on trouve par exemple des mines ou des choses comme ça, on peut forer et trouver de l'or et des métaux précieux.
Ou trouver des vaccins, explorer des nouvelles plantes.
Ça nous aide aussi à en apprendre plus sur notre histoire et nos origines, et puis les origines de la Terre.
D'après vous, à quoi servent les missions océanographiques ?
Eh bien, je suppose donc pour étudier les changements qui se passent au niveau de l'océan. Ils doivent étudier peut-être, alors, la fonte des glaces augmente, et puis son évolution aussi, par rapport au plastique. Est-ce qu'il y a beaucoup de plastique dans l'océan ? Enfin, voilà.
Ben, surveiller l'état de nos océans, et pas leur composition, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Les dégâts causés par l'homme et ce qu'on pourrait améliorer.
Elles servent à surveiller, entre guillemets, l'état des océans, la biodiversité, les questions de pollution, etc.
C'est pour sauver les océans, surtout. Le sauver qu'on a moins déchets dans les océans. Tara, je connais un tout petit peu. Ce sont des bateaux qui sortent, qui font la recherche par rapport à ça.
Ça sert à protéger l'environnement, à conserver tous les animaux, la faune et la flore, de toute façon, qui se trouvent dans les océans.
Ça sert à étudier l'océan pour voir comment évolue, j'imagine, la faune et la flore sous-marine, pour voir s'il y a des dégâts peut-être liés au réchauffement climatique et à la pollution, et voilà, pour connaître mieux les espèces sous-marines.
Vaste question. Elles peuvent servir, admettons, pour les géologues à connaître les reliefs des fonds marins, notamment pourquoi pour aller chercher des hydrocarbures, parfois, très souvent. Si on se place plutôt du côté du développement durable, alors aujourd'hui on parle de transition durable. Il peut y avoir des chercheurs qui étudient la faune et la flore sous-marine et qui en fait font des missions, hein, évidemment, pour contrôler tout ceci et protéger, hein, à terme, évidemment, et découvrir d'autres espèces, puisque nous ne connaissons pas beaucoup d'espèces sous-marines, hein. On en découvre tous les jours. Et on n'a pas encore la technologie non plus pour aller, par exemple, dans la fosse des Mariannes, tout au fond.
Qu'est-ce qui pollue les océans ?
Je pense que principalement, c'est le plastique de nos jours. Et après, tous les déchets, justement, jetés en navigation et tout le reste. Les produits toxiques.
Plus les mégots et les sacs plastiques.
Surtout le plastique, il y a beaucoup de plastique toujours dans les océans. On veut tout faire pour éviter ou pour sauver la planète, pour qu'il y ait moins de plastique dans les océans. Bon, ça tue des poissons surtout, parce qu'il y a beaucoup de poissons qui mangent du plastique et qui meurent après, qui se retrouvent après, moi je ne sais pas comment vous dites en français, qui se retrouvent à la plage morts.
À cause des filets de pêche.
Beaucoup de choses. Alors, le rejet de plastique, on a des continents de plastique qui se déplacent dans les océans, notamment dans l'océan Pacifique. Nous avons la surpêche qui racle le fond des océans, qui détruit les coraux, enfin la faune et la flore, hein, qui peut y exister. Le rejet aussi de liquides pollués, hein, quand on voit les pays en développement, pas que, hein, d'ailleurs, hein, qui rejettent leur pollution dans les océans, hein.
Principalement tout ce qui est matière pétrolière, hein, donc avec tous les plastiques, les dépollutions de bateaux, le pétrole.
Comment peut-on diminuer la pollution des océans ?
En faisant attention, en prenant conscience et surtout en respectant la nature. Ça va de la simple huile bronzante quand on va se jeter à l'eau et qu'on a de l'huile bronzante sur le corps. Ça commence par là et puis en faisant attention à tout, en essayant de respecter tout ce qui est biologique, reconditionnement, et surtout pas faire n'importe quoi et pas jeter n'importe quoi à l'eau, à la mer, ça c'est la première des choses, et après tout ce qui suit bien sûr.
Éviter le transport maritime
des, oui, alors c'est, l'éviter, oui, c'est compliqué, c'est quand même, hein, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain une économie mondiale, hein, malheureusement, hein, vous le savez bien, sinon on reviendrait à une forme d'autarcie et de... Voilà,
et diminuer la pêche des poissons.
C'est surtout, oui, diminuer la surpêche, ouais. Voilà, après là aussi c'est compliqué, hein. Quelqu'un qui jette un mégot de cigarette dans la rue, le mégot va ensuite partir dans les égouts ensuite se déverse, je ne sais où, enfin, c'est pas tout le temps traité comme on le voudrait, et ensuite ça s'éverse tout ça dans l'océan. Hein. On l'a vu avec notamment les masques. Hein. Acheter sans emballage, mais là aussi, encore une fois, enfin, on ne mettra plus une heure à faire des courses. Hein.
Il y a beaucoup de choses possibles. D'une part, il y a sur le continent la limitation de tout ce qui est polluant, c'est-à-dire par exemple les plastiques. Et puis également tout ce qui est émissions agricoles de pesticides, d'engrais, qui sont utilisés de façon excessive en Bretagne, par exemple, pour prendre le cas français, avec le phénomène des algues vertes. La deuxième chose, c'est qu'il faut traiter aussi la pollution qui est déjà faite. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'elle s'aggrave, mais il faut aussi faire en sorte qu'elle diminue dans les océans, et je pense évidemment au continent plastique.
Bah avec des régulations du type sur les plastiques, des régulations dans le domaine de la pêche, je pense. J'ai écouté ça il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je... C'est les filets de pêche, en fait, sont rejetés, c'est ça qui pollue beaucoup.
Chers collègues, c'était le 28 juillet 2014. J'étais en avion et j'ai crashé sur une île au port du Maroc. Et dans cette île, elle n'était pas comme les autres, car c'était une île un peu bizarre. C'était une île... où il y avait un côté où il faisait froid, où il faisait chaud. Et dans cette île, c'était un pays que j'ai découvert. Et dans ce pays, on était déjà dans le futur, il y avait des voitures volantes et tout. Cordialement, sincère salutation. Souleymane.
Nous remercions les personnes qui ont participé au micro-totoir, ainsi que les chroniqueurs.
Voici la seconde partie de l'interview de Madame Catherine Jandel.
Sur quel projet travaillez-vous couramment ?
Alors, sur le programme Géotrace, on s'est lancé dans cette aventure avec des collègues début 2000 parce que on s'est aperçu qu'on avait développé les uns et les autres, chacun dans nos propres recherches, ces éléments traces qui donnent des indications, comme le chronomètre. En gros, c'est un traceur qui indique d'où vient l'eau et qui lui donne une espèce de couleur. Ou de la matière qui arrive par les vents, comme le vent du Sahara, eh bien, il est marqué par mon traceur. Donc je peux indiquer, ah bah tiens, la particule qui est là, elle vient de là, etc. Donc dans toute l'opération... Il y en avait un qui avait le chronomètre, l'autre qui avait l'indicateur de l'origine. Il y a ceux qui veulent connaître le fer, etc. Et on était mûrs pour se mettre tous ensemble et pour monter un programme d'exploration mondiale. Alors, on l'a monté ensemble entre 2000 et 2005. On a été approuvé en 2006. On a fait les premières campagnes en 2009-2010. Et depuis, on sillonne parce que c'est très, très long. Hein. Une campagne comme celle-là, derrière, il faut faire des analyses. On ramène les échantillons. Là, on va les avoir début juin. Les échantillons, ils sont revenus de La Réunion en bateau. On n'allait pas mettre 40 mètres cubes d'eau dans un avion. Ça nous aurait coûté beaucoup, beaucoup trop cher. Déjà qu'il fallait ramener des trucs à moins 80. Quand mes collègues ils m'ont dit qu'il faut tout ça de moins 80, j'ai vu les factures, j'ai fait pop, 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 comment on va payer ça? Donc tout ce qu'on devait ramener en urgence, c'est pris l'avion, mais tout le reste, ça revient en bateau. Et derrière, il faut analyser. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est la moisson, là. Mais après, on a analysé les échantillons, il faut faire le pain. Il faut moudre le blé et faire le pain.
Comment arrivez-vous à définir d'où vient la particule?
Ah, il faudrait que je te montre mes cartes. Donc moi, j'ai déterminé que ce n'est pas un élément chimique, c'est un rapport d'isotope. Tu ne connais pas ça encore, mais ce n'est pas grave. En fait, j'ai un traceur qui, selon que le terrain il est de l'ère primaire, de l'ère secondaire, de l'ère tertiaire, qu'il a vécu telle ou telle histoire, qu'il est volcanique ou que c'est un granit et tout ça, donc au départ c'est de la géologie, eh bien il n'a pas la même valeur. Et du coup, si on compare ça en couleurs, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont verts. Et donc si je trouve dans l'Antarctique du rouge, je vais dire hop, 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 là, d'où ça vient? Ben, ça doit venir de Kerguelen, ou ça doit venir des îles, parce que les îles, elles sont volcaniques. Si je trouve du bleu, je dirais ça vient d'Afrique du Sud. Mais du rouge peut venir aussi du Pérou-Chili, par les vents. Vous pouvez avoir des particules qui viennent des hauteurs du Pérou-Chili et qui vont par les jet streams arriver jusqu'à la région dans laquelle on était. Donc on mesure la composition chimique et avec ça, on peut déterminer d'où ça vient.
Quels sont vos projets futurs pour les prochaines années?
Vu mon âge, ça s'appelle un peu la retraite. Alors théoriquement, je devrais m'arrêter. Mais déjà, il faut que je finisse ce qui est là. Alors, vous disiez, les chercheurs, c'est des gens, c'est un peu comme des artistes. Parce qu'en fait, on est dans des métiers de création. On s'entend très, très bien entre les artistes et les chercheurs, parce qu'on se comprend. Pourquoi on est créateur? Parce qu'en fait, on est toujours à la limite de ce qu'on ne connaît pas. Or, ce que l'on va connaître par nos travaux, c'est quelque chose de nouveau. C'est assimilable à une création. Simplement, c'est une création scientifique, c'est une information nouvelle. Un nouveau courant marin, c'est une information nouvelle, c'est une création. Du coup, on a beaucoup de mal à arrêter, en général, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, etc. Donc, j'ai une image que m'a donnée mon oncle, qui est très jolie, c'est la bougie qui s'éteint progressivement. Donc, moi, je vais continuer à analyser déjà avec l'ingénieur qui travaille avec moi, on va analyser les échantillons. Si je peux, je prendrai un étudiant, si je peux, plutôt d'un pays en voie de développement. Pour des raisons qui me sont personnelles, j'aime bien faire ça. Ensuite, je vais essayer d'arrêter d'avoir des idées, mais là, c'est le gros problème, en fait. Mes collègues, même, ils aiment beaucoup que je sois dans une réunion, parce que je dis, oh, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, etc. Mais il faut que ce soit plus moi qui le fasse, quoi. Parce qu'à un moment donné, on y va en déambulateur, quoi. Donc, il faut arrêter.
Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de l'océanographie?
L'amour de la mer, en fait. Je pense que je dois beaucoup à mes parents. J'ai navigué, je pense, la première fois, j'avais 4 ans. J'ai appris à faire le point, à me positionner en mer avec mon père. Je devais avoir une 8-10 ans, à peu près, une dizaine d'années. Parce que je me rappelle de mon premier point, c'était génial. Mais j'étais vraiment pas vieille. Et on a beaucoup, beaucoup navigué et on a pêché. Vraiment, une pêche très écologique, où tu vas regarder la moule, l'ormeau, l'oursin, etc. Donc j'ai tout découvert comme ça. Et un jour, je pense que, ça je ne sais pas quand ça s'est fait, mais il est évident que j'ai entendu que le métier d'océanographe existait, parce que quand tu es en 5e, 4e, 3e, on ne t'en parle pas tous les jours. Hein. Et j'ai connecté en me disant, moi j'aime être en mer, j'aime la mer, et je vais faire ce métier-là. Et à partir de là, je n'ai pas lâché.
Que se passera-t-il si tous les coraux disparaissent et comment cela nous impactera-t-il?
Alors, pourquoi les coraux risquent de disparaître et pourquoi ils sont vraiment en danger déjà? À cause du réchauffement de l'eau, ils ne supportent pas une certaine température, ils ne supportent pas pour la plupart d'entre eux de passer les 29-30 degrés. Et quand ça se produit, la petite algue qui permet au corail de vivre part. Et du coup, le corail blanchit, ça s'appelle le blanchiment des coraux. L'autre menace, c'est la montée du niveau de la mer. À cause du réchauffement climatique, le niveau de la mer monte de 3,8 mm par an, le chiffre réajusté là, dans le nouveau rapport sur le climat. Et un corail, ça se développe à une profondeur donnée parce qu'il y a une lumière donnée. Si tu montes le niveau de la mer, tu as moins la lumière. Donc ça va gêner le corail. Et la troisième chose, c'est la fameuse acidification dont je vous ai parlé à cause du gaz carbonique. Quand il se dissout dans l'eau, il acidifie les eaux de surface et il menace le corail. Donc il est 3 fois menacé, le corail. Donc il est particulièrement menacé. C'est toute l'économie mais pas pour le tourisme, l'économie de pêche, l'économie de ressources de la zone intertropicale qui est menacée. Ce que ça veut dire, c'est des gens qui auront plus faim, c'est des populations qui ont déjà subi des cyclones, ils sont beaucoup plus exposés au réchauffement climatique que vous, même si des fois il fait très chaud à Toulouse, ça n'a rien à voir. Et en plus, ils vont avoir plus faim. Et donc, des êtres humains qui ont faim, c'est l'immigration. Et donc, ça va compliquer considérablement la politique internationale. Je ne peux pas te dire jusqu'à quel point pour nous, mais on sera tous impactés par la disparition des coraux. Parce qu'ils ne grandissent pas assez vite par rapport à la montée du niveau de la mer.
Pensez-vous que nous pouvons vaincre le réchauffement climatique ?
Oui, mais il faut y mettre le paquet. Alors, comme vous êtes loin de Toulouse, si vous venez de Toulouse, peut-être que vous venez en voiture. Ouais. Bah déjà, comme m'a dit un jour dans le train du climat, il y a un petit jeune de 8 ans, c'était pas si facile que ça d'expliquer. Vous savez qu'à 5-6 ans, il y a des enfants qui comprennent pas que si on s'arrête à la pompe à essence, c'est pour que la voiture roule. Et donc, j'explique tout ça et à la fin, il me fait ce qui veut dire qu'il vaut mieux prendre un bus parce qu'il vaut mieux un pot d'échappement pour 40 personnes que 40 pots d'échappement. J'ai adoré. Et effectivement, il faut essayer d'être le plus utilisateur de vélo et de transport en commun en ce qui vous concerne. Faire baisser le chauffage à vos parents. Donc, pas vivre en t-shirt, mais mettre des pulls verts à la maison. Mais c'est faisable. Alors, évidemment, il y a toutes les histoires d'isolation pour lesquelles il y a des aides. Moins consommer, pas changer de téléphone portable tout le temps. Pas être en permanence sur des tas d'écrans parce que c'est extrêmement consommateur d'énergie. Internet est un gros émetteur de gaz à effet de serre, même si on en parle peu. Ne pas prendre l'avion pour aller en vacances à l'autre bout du monde. L'Aveyron, c'est très sympa. Voilà, c'est retrouver une autre façon de vivre qui n'est pas la bougie, mais qui est plus pensée. Est-ce que cette planète qui nous nourrit, qui nourrira tes enfants, qui va vous allez aller jusqu'à la fin du siècle, s'il fait 3 degrés de plus à la fin de ce siècle, en moyenne sur Terre, je vous assure que ça ne va vraiment pas être drôle. Vraiment pas. Tirez les sonnettes d'alarme chez vous. La viande. Vous savez que le steak dans l'assiette, c'est beaucoup de consommation d'eau et beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en manger parce qu'on en a besoin, mais réduire considérablement la consommation de viande, c'est important. Pensez à ça. Ça coûte moins cher au bout du compte quand on partage les voitures, quand on prend les transports en commun, quand on utilise un vélo. Quand on fait des économies de chauffage et quand on dépense moins d'argent pour la viande, à la fin, le porte-monnaie, il est beaucoup plus gros, en fait.
De quelle nationalité étaient vos partenaires sur le bateau ?
Afrique du Sud, donc je l'ai dit, on avait un partenariat important avec eux. États-Unis, Angleterre, Belgique, Suisse. On avait 7 nationalités, je suis sûre que j'en oublie une, mais je ne me rappelle plus laquelle. Colombie.
Quels sont les objectifs de la Géotrace ?
Les objectifs du programme Géotrace, c'est de faire ce que nous avons fait, nous, sur notre petit segment, à l'échelle mondiale, sur des régions. Les lignes que vous avez vues au début, elles ne sont pas dessinées par hasard, elles coupent des zones océanographiquement, je ne peux pas dire géographiquement, mais intéressantes. Par analogie, quand on va de la Réunion à 60 degrés sud, c'est comme si on allait du Sahara au Danemark, ce qui veut dire qu'on traverse beaucoup de géographies différentes et de climats différents, etc. Dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Et donc, on a traversé des associations biologiques différentes et tout, et cette section était intéressante pour cette raison. Mais les autres sections qu'on a proposées, je pourrais toutes vous décrire pourquoi celle-là, elle fait tel zigzag dans l'Atlantique, pourquoi on les a pensées à l'avance pour qu'elles nous documentent le mieux possible sur l'océan. Ensuite, toutes ces données, on se débrouille au niveau mondial. Si je mesure, moi, le fer dans l'océan sud avec mes manips, la donnée sera comparable à celle qui est mesurée dans l'Arctique ou dans l'Atlantique ou dans le Pacifique pour que l'atlas soit cohérent. Parce que s'il y en a un qui mesure le fer en le contaminant et pour le même échantillon, il donnerait une valeur différente, ça ne marchera pas notre atlas. Donc il y a tout un travail de mise en commun de qualité des données. Et ensuite, on met ça dans une base de données open source, dont je pourrais vous donner le lien, sur la base Géotrace. Tous les 3 ans, on fait un travail de publication de ces données, on les met dans la base de données, donc on en fait un en 2021, là, en novembre. Et les données, elles sont dans l'Atlas, et on peut déjà dessiner une section de fer, des sections de fer dans l'Atlantique, qui ont révélé que par exemple, les sources hydrothermales sous-marines, les montagnes sous-marines, généraient beaucoup plus de fer que ce que l'on pensait auparavant. Donc ça nous aide à comprendre mieux comment ça marche en fait. On est encore beaucoup dans l'exploration, hein, la compréhension du système.
Comment avez-vous appris l'anglais ?
Alors j'ai fait allemand première langue, ich liebe Deutsch. Allemand et latin en sixième et anglais en quatrième. Donc au collège, au lycée, je préférais l'allemand, quoi. Il a bien fallu que je m'y mette parce que dans mon métier, on ne parle qu'en anglais. Et puis surtout, bon, je me débrouillais quand même pas trop mal. Hein. Mais donc je l'ai appris au collège, au lycée. Et je l'ai surtout beaucoup pratiqué quand je me suis retrouvée aux États-Unis dans un laboratoire pendant un an et demi. C'est ce qu'on appelle l'immersion, et il n'y a rien de mieux, en fait, pour apprendre une langue. Parce que, en fait, j'avais appris l'anglais en lisant de la littérature, parce que tout ce qu'on fait, c'est en anglais. Maintenant, tu vois, j'écris un document, je ne sais même plus le soir si j'ai écrit en anglais ou en français. Hein. On est complètement entre les deux langues. Je me rappelle, je savais dire échantillon, carotte de prélèvement, et je ne savais pas dire fourchette. Je me rappelle très bien. Je ne me rappelais plus comment on disait fourchette. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, mais heureusement, mon mari était plus débrouillé que moi dans la vie courante. Et puis après, bah, je m'y suis mise aussi. Quoi.
Pendant votre parcours, est-ce que vous vous êtes arrêtée à des petites îles ?
On s'est arrêtée devant l'île Marion et l'île Prince Edward. On s'est arrêtée devant l'île de Heard. On s'est protégée derrière l'île de Heard pour être à l'abri du vent parce qu'il y avait une grosse tempête. Et on a débarqué sur Kerguelen au bout de 52 jours. C'est-à-dire qu'entre-temps, on n'a pas débarqué. On est resté tout le temps en mer. Et ça faisait du bien de marcher, je peux te dire. Et après, quand on débarque à La Réunion, on est allé marcher.
Quel était votre emploi du temps sur le bateau ?
Alors, je me levais à 10h du matin et je me couchais à 4h du matin. Ah. Après, l'emploi du temps, il est déterminé par le retour des échantillons à bord. J'ai eu quelques nuits de récupération parce qu'on allait d'un point à l'autre et ça prenait plus de 8 heures. Quand le bateau il se déplace, on est moins obligé d'être là. Ma collègue et moi, on s'est organisé pour qu'il y en ait toujours une de nous deux de présent pour les mises à l'eau, pour les manœuvres, etc. Au cas où il y a un pépin, il faut toujours qu'il y ait la chef de mission qui soit là. Heureusement qu'on était deux, parce que c'est vraiment un boulot de dingue, quoi. Il y a 48 personnes qui te posent plein de questions tout le temps. Et donc, notre emploi du temps, il était vraiment soumis au retour des échantillons, aux stations, à l'arrivée en station, etc. Et après, à notre travail qui était à la fois de préparer les stations avec nos collègues, de faire en sorte que tout se passe bien au moment de la station et de faire le suivi après. Et puis hop, on repartait, de discuter avec le commandant et l'équipage tous les jours à 17h30, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'était la période où on était réveillés toutes les deux. On était là pour discuter avec l'équipage de ce que l'on allait faire le lendemain, le surlendemain, etc. Parce qu'il faut leur donner des directions. Parce qu'ils savent piloter le bateau, mais si tu leur dis pas où tu veux aller, ils y vont pas. Hein. Et où tu veux t'arrêter, ben, ils s'arrêtent pas. Enfin, c'est ça, 18 heures par jour, pendant 2 mois.
Quelle est la pire expérience que vous avez vécue en mer ?
J'ai eu la perte de matériel, hein. J'avais laissé un mouillage avec des échantillons à collecter. Tu laisses une ligne avec... c'était pas du matériel de pêche, c'était pour collecter des particules pendant un an. Et au moment de le récupérer, ils l'ont perdu. Et ça, c'est terrible, parce que toi, tu les attends, tes échantillons. Donc, t'es vraiment très, très triste. Et puis, en plus, ça coûte cher. C'était à cause d'une tempête et d'une mauvaise manœuvre, et ça a été perdu. Ça arrive. Ça s'appelle la fortune de mer, mais c'est pas du tout de la fortune. Hein. Et alors le pire, c'est perdre des gens. Hein. Ça arrive, hein. Mais moi, j'ai pas eu ça.
Avez-vous déjà eu des catastrophes naturelles pendant vos trajets ?
Alors justement, notre histoire de 933 millibars et de 18 mètres de creux, le bateau lui-même, il a fait 25 mètres, c'était mesuré. Là, parce que les bateaux, ils sont au-dessus et ils descendent comme ça, et après, ils s'enfoncent. Lui, il a rajouté aux 18 mètres, et 7 mètres. C'était... un cyclone, alors vous voyez où est le canal du Mozambique, tous Madagascar, en fait, qui venait de quitter Madagascar et qui est descendu vers le sud. Et on avait une dépression qui arrivait de l'ouest, qui arrivait du sud de l'Atlantique. Et nous, on était... En fait, ils se sont réunis les deux. Ils se sont mariés et on était là. Et donc, c'est la plus grosse tempête que notre commandant du bateau ait vécue. Il avait 45 ans. donc il allait arrêter d'ailleurs. Il a dit qu'il n'avait jamais vu de tempête aussi grosse que celle-là. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Le bateau, au lieu d'avancer à 12 nœuds, c'est-à-dire 20 km/h, il avance à 5 km/h. Il le positionne de telle façon qu'il ne prend pas trop les vagues et t'entends le bateau qui fait... Enfin bon, il est vivant, quoi. C'est très impressionnant. Mais on n'a pas eu peur. Enfin, j'ai du mal à avoir peur en mer. Quand même, je dois dire, la nuit, on est allé à la passerelle. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas travailler et tout. J'étais à côté d'un collègue qui lui-même n'est ni malade, ni peureux, ni rien. On était là tous les deux, on fait quand même la nuit, c'est impressionnant. Hein. On ne sait pas où on va, parce qu'on ne voit pas. Il y a une grosse vague qui t'arrive dessus et tout, ça fait vraiment bizarre. Mais bon, c'était un bateau ultra sécurisé, ultra solide et on s'en est sorti.
Est-ce qu'il y a des gens qui font de la plongée ou quoi pour voir ce qu'il y a ou il n'y a que des machines?
Alors, j'ai plongé dans une soucoupe à 2300 mètres de profondeur pour voir des volcans sous-marins. Donc on peut, mais ça va être de moins en moins parce qu'on a développé des robots qui ramènent des supers images, qui sont tenues par une laisse et qui vont le faire et ça coûte moins cher que d'avoir un pilote, etc. Et que d'entretenir aussi ces espèces de cocottes minutes qui permettent de descendre parce qu'il faut résister à la pression. Hein. La cocotte minute, c'est pas la pression, elle n'est pas dans l'habitacle. C'est une protection et puis on a de l'air artificiel dans l'habitacle. Et c'est une espèce de bâtisse CAF, si tu veux. Oui, on peut plonger, mais c'est de plus en plus rare. On peut faire aussi de la plongée scientifique, c'est-à-dire que si tu es en milieu côtier, dans les coraux ou dans les rochers, là où c'est pas profond, il y a des plongeurs scientifiques, oui.
Nous remercions Madame Jandel pour son interview.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette émission de radio.
Radis Sound, les chemins buissonniers, le département de la Haute-Garonne pour le parcours laïque et citoyen.
Nous remercions enfin nos professeurs et notre proviseur Madame Moudin de nous avoir permis de réaliser ce projet.
Au gré des vagues sur Radio Coulommiers.
Je m'appelle Kaina.
Je m'appelle Mohamed.
Edwige.
Amjad, je suis au collège Victor Hugo de Coulommiers.
On va à la plage, on va se baigner.
J'aime beaucoup entendre le bruit des vagues.
Je m'appelle Héloïse. Je fais de la natation synchronisée.
Je m'appelle Dylan. Je suis en 5e une au collège de Victor Hugo à Coulommiers.
Je lis des livres parce que là-bas, la place, elle est calme.
Au gré des vagues sur Radio Coulommiers.
Pour la partie musicale, vous avez pu entendre les extraits de La traversée du désert de Chocolat Billy, La reine de Saba de Charles Gounod, Full Up by Spectacular Sound. Vous avez pu entendre des bruitages venant de la BBC Universal Sounds.